Et ensuite, on a commencé à penser que l'enseignement de la Bible, c'est un peu démodé, redondant. Et maintenant, peut-être pour la première fois, depuis longtemps en Europe occidentale, l'enseignement de la Bible est considéré comme étant immoral et mauvais pour la société. Je ne sais pas si vous avez constaté cela, que lorsqu'on se prononce sur des questions comme l'avortement, que la Bible est contre l'avortement, l'euthanasie, ou le fait que le mariage, selon la Bible, est seulement entre un homme et une femme, et qu'il n'y a pas d'autre mariage valable, on pense que cela est carrément immoral de dire cela maintenant. C'est plus simplement démodé, mais c'est mauvais de dire ce genre de choses. Il y avait un couple en Angleterre de chrétiens qui étaient définitivement exclus de la liste des familles d'accueil. Ils avaient fait ça pendant 15 ans, d'avoir des enfants à la maison, mais ils étaient définitivement exclus de la liste parce que ils croyaient que les relations homosexuelles étaient immorales. Ils étaient chrétiens. Le juge avait dit que cette croyance pourrait infecter les enfants. Donc, notre société commence à penser à dire que ce que Dieu dit dans la Bible, c'est vraiment dangereux, immoral pour la société. La société est de plus en plus hostile à ce que la Bible dit et envers ceux qui veulent annoncer ce message. Et la question se pose donc, mais comment est-ce qu'on peut vivre en tant que chrétien dans un monde hostile? Comment est-ce qu'on peut le faire? Mais la lettre de 1 Pierre répond à cette question. C'est vraiment d'actualité. Et c'est très, très parlant pour nous à ce moment dans l'histoire. La lettre de 1 Pierre s'adresse aux chrétiens qui souffraient pour leur foi, qui étaient marginalisés pour leur croyance. Et le but de Pierre est de nous expliquer comment vivre en tant que chrétien, malgré les souffrances, en fixant nos yeux sur l'espérance qui nous attend. C'est ça ce qu'il va dire. Et ce sera utile pour nous si on est chrétien ce matin, si on a du mal à vivre en tant que chrétien dans ce monde hostile. Ce sera utile aussi si vous êtes là en tant que visiteur, pas encore chrétien peut-être, mais vous voulez savoir à quoi ça ressemble d'être chrétien. Ça va être très utile pour vous. Et peut-être vous avez décroché dans la vie chrétienne vous-même, ou vous êtes sur le point de décrocher. Ça va être un bon rappel aussi pour nous. Donc prions ensemble pour l'aide de Dieu, et puis nous allons lire ces versets. Prions. Notre Père, c'est un privilège que de nous mettre à l'écoute de ta parole dans la Bible. Donne-nous maintenant d'écouter ta voix et que tu puisses nous parler puissamment, que tu puisses nous instruire sur comment vivre pour toi dans ce monde hostile et qui fait peur. Nous t'en prions. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons lire ces cinq premiers versets de la lettre de 1 Pierre. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pan, la Galatie, le Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Voilà, donc Pierre va nous donner deux vérités essentielles que nous devons savoir si nous voulons vivre en tant que chrétiens dans ce monde. Et le premier, c'est dans les versets 1 à 2. Les versets 1 à 2, Pierre dit « Sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes, des étrangers dans le monde, mais choisis par Dieu. Okay? » Sachez qui vous êtes, des étrangers dans le monde, mais choisis par Dieu. Les deux termes clés qui sont dans les versets 1 à 2, c'est ces mots-ci. « Étranger », vous voyez ça au verset 1, « étranger ». Et verset 2, élu, étranger et élu. Et Pierre écrit à ces personnes qui sont dans la Turquie moderne, Pont Galatie, etc. Et il dit qu'ils sont étrangers, les chrétiens sont étrangers. Pas seulement dans le sens qu'ils ne vivent pas dans leur pays d'origine, mais dans le sens que les chrétiens ne se sentiront jamais à l'aise dans ce monde. On se sentira toujours comme des étrangers, comme des gens qui n'appartiennent pas dans le monde actuel ou le monde. J'imagine que vous connaissez ce sentiment. Vous avez peut-être voyagé cet été ou à un autre moment. Et vous êtes dans un pays où vous ne comprenez pas la langue. Et si vous ne comprenez pas la langue, vous n'arrivez même pas à lire les panneaux sur l'autoroute. Vous ne savez pas quelle sortie prendre. Vous êtes totalement perdu dans le pays. Et il y a d'autres habitudes pour manger. Il y a un autre sens d'humour, etc. Donc on se sent comme un étranger à ce moment-là, n'est-ce pas? Ou peut-être vous êtes venu en Belgique d'un autre pays, vous avez dû faire tout un tas de démarches administratives pour être reconnu dans ce pays. Vous avez senti comme un étranger. On connaît ce sentiment, n'est-ce pas? Mais c'est ça que Pierre dit pour les chrétiens. C'est ça notre sentiment, de vivre dans ce monde, même dans la société où nous avons grandi. Et parfois, vous avez fait cette expérience au travail, si les gens parlent tout le temps des blagues grossières et vous êtes incapable de participer à la conversation ou au rassemblement dans les fêtes de fin d'année, vous attendez ça avec un peu d'inquiétude parce que vous pensez, mais qu'est-ce que j'ai en commun avec ces personnes? Parfois, on pense cela. Ou parfois, lorsque nous nous affichons publiquement en tant que chrétiens, clairement, si nous osons dire que le seul chemin pour arriver à Dieu, c'est par Jésus, et ce n'est pas par Islam ou Bouddha ou autre chose, on nous regardera comme un ovni, ou pire. Ou lorsqu'on dit des choses, ce que la Bible dit concernant l'avortement, autre chose, les gens nous font croire que ça n'a plus de place dans la société, ce genre de discours. En tant que chrétiens, nous sommes des étrangers, même au sein de notre société. C'est ce que Pierre dit au verset 1, des étrangers. Donc soyons encouragés si nous avons ce sentiment parfois de ne pas nous sentir à l'aise dans ce monde, de se sentir différent parce qu'on est chrétien. Pierre dit que c'est normal de se sentir ainsi. Mais on pourrait se demander la question, pourquoi est-ce qu'on va se sentir comme un étranger? Est-ce que c'est parce qu'on va s'habiller bizarrement ou on va parler un langage que les autres vont pas comprendre? Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que nous avons été choisis par Dieu. Ça, c'est le deuxième aspect de notre identité. Choisis par Dieu, élu. C'est ça ce que élu veut dire, choisi par Dieu. Et au verset 2, Pierre nous donne trois informations concernant notre élection. Voyons ces trois choses. Parce que nous voyons tous les membres de la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit à l'œuvre pour vous sauver dans notre salut. C'est extraordinaire. Donc, premièrement, nous avons été élus selon la préscience de Dieu le Père. Selon la préscience de Dieu le Père. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a sorti son télescope avant le début de la création pour voir qui allait croire en lui. Parfois, on pense cela. Non, ce n'est pas ça. C'est plus fort que ça. C'est que Dieu avait choisi les gens qu'il allait sauver. Et on a été choisis selon la préscience de Dieu le Père. Et cela nous rend humbles, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas sur base de mérite, ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres, plus spirituel que les autres. Non, c'est par sa grâce qu'il nous a choisis. Parfois, lorsqu'on constate qu'on est différent des autres, ça nous rend un peu orgueilleux. Mais le fait de savoir qu'on a été choisi d'abord par Dieu, ça montre que l'idée de devenir chrétien, ce n'était pas la nôtre à la base, mais c'était la sienne, loin avant que c'était la nôtre. Cela nous rend humbles. Mais c'est aussi un énorme encouragement, le fait d'être choisi par Dieu. Nous ne savons pas ce qui nous attend si nous continuons à nous afficher publiquement en tant que chrétiens. Comment l'État va sanctionner les gens qui disent ce que la Bible dit? Comment les ressources humaines dont les entreprises vont traiter les chrétiens qui parlent de Jésus au travail? Nous ne savons pas comment ça va se passer. Mais si nous savons que nous avons été choisis par Dieu, ça veut dire que nous n'avons pas besoin de chercher l'approbation des autres, l'approbation des gens au travail ou dans l'UNIF, nos collègues, nos voisins, les membres de notre famille. Si nous sommes précieux aux yeux de Dieu, nous n'avons pas besoin d'aller chercher l'approbation des autres. choisi selon la préscience de Dieu. Deuxièmement, choisi par la sanctification de l'Esprit au verset 2. Ça, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre pour nous mettre à part pour lui. Donc, parfois dans la Bible, on parle de sanctification, c'est le progrès dans la sainteté. Mais ici, ce n'est pas ça. C'est le fait d'être mis à part définitivement, une fois pour toutes, pour Dieu. J'ose dire que votre brosse à dents est sanctifiée. Votre brosse à dents est sanctifiée. C'est-à-dire que cela vous appartient. Vous n'allez pas partager ça avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour une tâche particulière. Vous brossez les dents. Vous n'allez pas utiliser ça pour aller nettoyer l'évier ou autre chose. Donc c'est sanctifié, c'est mis à part pour une tâche particulière. Cela vous appartient. Et Dieu dit que nous sommes sanctifiés. Nous avons été mis à part, nous appartenons à Dieu, et cela pour une tâche particulière, pour refléter son caractère autour de nous. Et en vue de quoi exactement cette troisième chose? Afin de devenir obéissant à Jésus et de participer à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Le fait d'obéir ici, ça veut dire le fait de devenir chrétien, de se soumettre à Jésus comme notre roi. Et bien sûr, ça continue dans la vie chrétienne. Mais nous avons aussi participé à l'aspersion du sang de Jésus-Christ si nous sommes chrétiens. Jésus n'attend pas à ce qu'on soit parfait, loin de là, il est venu pour les pécheurs comme nous. Et nous participons à l'aspersion du sang de Jésus parce qu'on est pécheur et on a besoin d'être purifié par Jésus. Cela a lieu au début de notre vie chrétienne, mais tout au long de notre vie chrétienne. Je ne connais pas ce que vous vivez pour l'instant, si vous avez des secrets que les autres ne connaissent pas par rapport à vous. Mais Dieu sait ce qui se passe dans votre vie. Et il veut que vous veniez à la croix de Jésus pour être purifié. Donc Pierre veut qu'on comprenne notre identité, choisie par Dieu, par le Père, mis à part par l'Esprit, pour obéir à Jésus, pour être purifié par son sang. C'est ça qui nous sommes. Et donc nous devons comprendre cela, nous sommes précieux aux yeux de Dieu, mais nous allons vivre en étranger dans ce monde. Et du coup, il y a une tension là, choisi, précieux aux yeux de Dieu, mais rejeté, étranger dans le monde. Et il y aura deux tentations sur la manière de gérer, de vivre cette tension. La première tentation est celle de l'isolement du monde. Un peu comme les soldats qui se creusent des tranchées, des fortifications pour se protéger de l'ennemi, ou comme un lapin qui disparaît dans son terrier. On sera tenté de nous cacher du monde, de ne plus avoir de relation avec les gens non-chrétiens, en pensant que le seul moyen de rester fidèle à Dieu, c'est d'éviter tout contact avec le monde. Et cela se voit lorsque nous constatons que nous n'avons plus beaucoup d'amis non-chrétiens. Mais Pierre veut que nous soyons dans le monde. Il va en parler plus tard dans sa lettre. Que nous ayons des amitiés avec les non-chrétiens. En relation avec eux, en espérant qu'eux aussi soient sauvés par Dieu. Il ne faut pas vivre en étant isolé du monde. Mais la deuxième tentation, c'est le compromis. Le compromis. C'est d'être comme un caméléon. Caméléon. Et de vouloir se sentir chez nous dans la société. Et c'est normal, on ressent tous cette tentation, n'est-ce pas? On veut être apprécié des autres, au travail, ailleurs, accueilli, accepté, à l'UNIF. On n'aime pas être critiqué ou rejeté par les autres. Et la tentation sera de nous taire sur des sujets controversés de la Bible. Et ne rien dire par rapport à Jésus à nos amis, de peur de perdre leur amitié. De ne rien dire par rapport à Jésus à notre boulot, de peur de perdre notre boulot. Et on finit par ressembler à tous les autres dans notre société, sauf qu'on vient à l'église parfois, le dimanche. Mais souvent, je trouve qu'on a un discours d'isolement du monde, de dénoncer le monde avec les termes les plus forts parfois, mais une pratique plutôt de compromis avec le monde. Nous avons souvent le même niveau de vie que les autres dans le monde. Les mêmes voitures qui coûtent très cher, les maisons la même taille. Sommes-nous plus préoccupés par le bonheur de nos enfants que leur salut éternel? Parce que ça, c'est une mentalité du monde, pour finir. À quel point voulons-nous que nos enfants réussissent à l'école, au point où on se fâche avec eux s'ils ratent, ou au point où on est content s'ils ratent l'église pour bosser? Partageons-nous parfois la même vulgarité de langage avec les autres dans le monde? Sommes-nous aussi colériques que les non-chrétiens que nous connaissons? Avons-nous les mêmes désirs et les mêmes rêves pour l'avenir que les autres? Cherchons-nous une relation autant que les autres? Mais si oui, nous sommes dans le compromis et nous devons renoncer à cela, mes amis. Et gloire à Dieu pour l'aspersion du sang de Jésus, la purification du sang de Jésus qui nous lave de nos péchés. On peut recommencer. Mais que Dieu nous donne sa grâce et sa paix, c'est ce que Pierre dit au verset 2, pour vivre justement notre identité, choisie précieuse aux yeux de Dieu, mais étranger dans le monde. Que Dieu nous garde des deux tentations de l'isolement et du compromis. Mais ce qu'il faut connaître pour bien vivre la vie chrétienne, notre identité chrétienne, c'est que cette vie, il faut savoir que cette vie n'est pas la fin des fins. Cette vie n'est pas la fin des fins. Si nous pensons que cette vie est ce qui compte le plus, nous ne serons jamais préparés à être rejetés par les autres, par la société. Car nous priserons trop notre confort ici-bas. Mais Pierre est venu montrer que ce qui compte le plus pour le chrétien n'est pas ce que nous vivons maintenant, mais ce qui nous attend au-delà de la mort. C'est seulement lorsque nous sommes convaincus de ce qui nous attend que nous pourrons vivre fidèlement maintenant, de jour en jour. C'est vers cela que Pierre tourne sa attention pour notre deuxième point ce matin. C'est les versets 3 à 5, les versets 3 à 5. Donc si jamais on peut avoir les versets 3 à 5 sur le diapo, ce serait magnifique. Voilà, donc il nous a dit déjà, sachez qui vous êtes, et maintenant il dit, soyez sûrs de ce qui vous attend. Soyez sûrs de ce qui vous attend. Un avenir glorieux avec Dieu, un avenir glorieux avec Dieu. Pierre se lance dans l'adoration, n'est-ce pas, au verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas s'empêcher. Il adore Dieu pour ce qu'il a fait, à cause de sa grande bonté. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Le verset 3, il nous a régénérés. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un mot d'église. Mais ça veut dire naître de nouveau. Il nous a fait naître de nouveau. Non pas par le baptême, comme enseigne l'Église catholique, mais par la parole de Dieu et la foi dans la parole de Dieu. Nous avons été nés de nouveau en vue de quoi? D'une espérance vivante, verset 3, une espérance vivante. Pierre dit que chaque chrétien possède une espérance d'une vie après la mort. Le sujet de la mort est un grand tabou, n'est-ce pas, dans notre société. On n'aime pas en parler. Mais chaque personne dans cette salle va un jour mourir. C'est la réalité. Et après les attentats à Paris, on se voit rappeler la réalité de la mort. Et la Bible est très claire que la mort n'est pas la fin. Et les chrétiens vont vivre éternellement avec Dieu. Et au verset 4, Pierre décrit cette espérance comme un héritage. Et lorsque nous parlons d'héritage, il s'agit d'habitude quelque chose qui nous est laissé par quelqu'un qui meurt, n'est-ce pas? Donc j'imagine peut-être chez vous, vous avez plein de choses qu'on vous a laissées en héritage. Mais dans ce verset, Dieu dit que ce que Dieu va donner aux chrétiens, c'est comme un héritage, mais beaucoup, beaucoup mieux. Et il est tellement extraordinaire qu'il a du mal à le décrire. Donc il dit au verset 4, trois choses pour dire ce que cela n'est pas. Il doit le faire comme ça. Donc analysons ces trois choses ensemble au verset 2. Donc pour un héritage, premièrement, qu'il ne peut se corrompre. Ça ne peut pas se corrompre. Cela ne va jamais périr. Enfin, j'imagine comme moi, vous trouvez dans le frigo parfois, derrière toutes les autres choses, il y a un fruit qui a péri. C'est, on veut pas, on doit le mettre dans la poubelle, mais on veut pas le toucher. C'est, Mais c'est, même le meilleur, la meilleure nourriture du monde ne reste pas fraîche pour toujours, n'est-ce pas? C'est périssable. Tout ce que nous connaissons dans cette vie est périssable. Ça se corrompt. Mais la nouvelle création, le monde que Dieu va créer pour les chrétiens, ne va jamais se corrompre. Et nous allons vivre avec Dieu pour l'éternité. Deuxièmement, l'héritage du chrétien ne peut se souiller, ne peut se souiller. Il n'y aura rien d'impur dans ce nouveau monde que Dieu va créer. Pas de péché, pas de mal, pas de souffrance. Dans cette vie, les bons moments peuvent être facilement gâchés par la tragédie, n'est-ce pas? Pensons à ces personnes à Paris, juste des moments avant les attentats, en passant une soirée agréable au restaurant avec les amis. Et puis le carnage, la tragédie qui vient. Mais il n'y aura plus de tout cela dans la nouvelle création. Il n'y aura jamais, quoi que ce soit, qui peut gâcher l'expérience des chrétiens, de vivre avec Dieu. Et l'héritage des chrétiens, troisièmement, ne peut se flétrir. Ne peut se flétrir. Toutes les bonnes choses de la vie perdent leur éclat avec le temps, n'est-ce pas? Les bâtiments impressionnants, comme l'abbaye de Villiers-la-Ville, qu'on aime bien dans ces régions, se détériorent avec le temps, n'est-ce pas? Et ils ont besoin d'être rénovés. Mais l'héritage du chrétien ne perdra jamais son éclat. Après 10 000 ans, figurez-vous, 10 000 ans au ciel, il sera aussi glorieux qu'au début. Après des dizaines de millions d'années, il sera aussi merveilleux qu'au début d'être dans la présence de Dieu, sans péché, pour toujours. Nous avons du mal à imaginer ce que cela donnera, n'est-ce pas? Mais Pierre veut nous persuader qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut se comparer à l'avenir glorieux des chrétiens après la mort. Et est-ce que vous le croyez? Puis-je vous poser cette question? Est-ce que vous savez où vous irez après la mort? Il n'y a pas de question plus importante que cela. Est-ce que vous serez avec Dieu pour toujours ou vous n'êtes pas sûr, en fait? Parce que si vous n'avez pas encore cette espérance, il faut venir à Jésus pour avoir la vie éternelle. C'est ça qu'il faut faire. Mais comment sait-on que cette espérance n'est pas juste une question de prendre ses désirs pour des réalités? C'est ce que mon père dirait, que vous, les chrétiens, vous n'aimez pas l'idée de mourir et de cesser d'exister, donc vous inventez des histoires pour vous soulager dans cette vie. Comment est-ce qu'on sait que ce n'est pas ça? Mais Pierre dit que notre espérance repose sur du solide. Au verset 3, voyons cela. C'est pour une espérance vivante, comment? Par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. C'est un moment, un événement historique qui a véritablement eu lieu. Ce n'est pas comme les idées de la réincarnation qui n'ont pas de base historique, c'est juste des idées. Mais ici, nous avons des preuves historiques. Dieu a montré qu'il n'a pas de difficulté à relever des morts et du coup, il va le faire pour nous si nous sommes chrétiens. La résurrection de Jésus garantit notre espérance. Si quelqu'un promet de nous laisser quelque chose en héritage, il y a toujours deux éventualités qui pourraient nous empêcher de le recevoir, n'est-ce pas? Quelque chose pourrait arriver à l'héritage même, ou quelque chose pourrait nous arriver avant le moment de le recevoir. Donc, imaginons qu'il s'agit de la maison de nos grands-parents, ils nous ont laissé cela, mais quelque chose pourrait arriver à cette maison. Il pourrait y avoir une grande tempête et plus de maison. Mais deuxième éventualité, quelque chose pourrait nous arriver avant d'être en mesure de recevoir l'héritage. Nous pourrions mourir nous-mêmes ou devenir handicapés de sorte que nous ne pourrons pas habiter dans cette maison à deux étages. Il y a toujours ces deux éventualités qui pourraient nous empêcher de jouir de l'héritage. Il se peut que lorsqu'on pense à l'héritage que Dieu va nous donner, on craint qu'une de ces deux éventualités se présente. Quelque chose se passe, peut arriver à l'héritage céleste. Lorsqu'on arrive après la mort, Dieu va-t-il changer d'avis? nous concernant? Mais non. Lisons le verset 4 à la fin. Il dit, « L'héritage vous est réservé dans les cieux. » Quelle bonne nouvelle. Rien n'arrivera à l'héritage jusqu'au moment où nous allons le recevoir. Mais peut-être c'est pas vraiment notre crainte. Nous craignons plutôt que quelque chose nous arrive d'ici là. Nous, on est tellement vacillants dans la vie chrétienne, n'est-ce pas? Des hauts, des bas. Notre foi très faible, parfois. Peut-être qu'avec les épreuves de la vie, on ne sait pas si on va arriver jusqu'au bout en croyant en Jésus. Et le verset 5 est un encouragement énorme. Lisons cela. Pierre dit, « À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Nous sommes gardés par la puissance même de Dieu jusqu'à la fin. Donc, ultimement, ça ne dépend pas de nous et de notre force, mais de Dieu et de sa main puissante par laquelle il nous garde jusqu'à la fin. Mais à quel pourcentage est-ce que vous êtes sûr d'avoir cette espérance? Permettez-moi de vous raconter le témoignage d'un certain John Stamm, parce que lui, il était sûr à 100%. Il était un missionnaire en Chine avant la Deuxième Guerre mondiale, et on lui a arrêté avec son épouse. Les communistes n'aimaient pas les chrétiens, et il était emmené pour être exécuté. Et en chemin, quelqu'un lui a demandé, « Où allez-vous ? » Et il a répondu, « Nous allons au ciel. » Figurez-vous. J'ai regardé un film il y a quelques temps maintenant qui s'appelle 55 ans. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça parle d'un homme qui a un cancer et il doit subir une intervention critique. Donc, soit ça va être une réussite, il sera guéri, soit il mourra lors de l'intervention. Et donc, on le voit dans le film, juste après que l'anesthésiste lui a donné l'anesthésie générale, il sent que ses yeux se ferment petit à petit, et il a tellement peur, parce qu'il ne sait pas s'il va ouvrir ses yeux de nouveau ou pas. Et je me suis dit, mais ça doit être juste terrible d'être face à la mort, comme ça. Mais en tant que chrétien, si nous sommes face à la mort comme ça, nous avons cette espérance vivante, n'est-ce pas, d'être avec Dieu après la mort, pour toujours. C'est garanti par la résurrection de Jésus. Dieu nous gardera jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez cette espérance? Est-ce que vous êtes prêt à faire face à la mort, sachant ce qui viendra après? J'espère que vous voyez que ce que nous disons en français par comment nous on utilise le verbe espérer, c'est pas vraiment la même chose que Pierre veut dire. Et si nous on dit en français, j'espère qu'il va pas pleuvoir, mais probablement il va pleuvoir parce qu'on est en Belgique. Et donc c'est un souhait, c'est un désir, c'est pas quelque chose de concret, c'est pas une certitude où on dit j'espère que les diables rouges vont gagner et probablement ils vont gagner. Mais c'est jamais sûr, c'est juste un désir, un souhait. Mais lorsque la Bible parle d'espérance, cela veut dire une certitude. C'est sûr, à 100%. Pas juste un désir vague, un souhait, quelque chose de meilleur, mais une certitude. Et nous pouvons avoir cette certitude si nous sommes croyants en Jésus-Christ ce matin. Et c'est ça qui fait notre joie. Vous pouvez voir plus loin dans le chapitre 1. Mais Pierre dit qu'on va faire face à plusieurs épreuves dans notre vie. Mais c'est le fait de savoir, de connaître notre espérance, de savoir ce qui nous attend, qui nous donne la joie, même face à ces épreuves. Parce que nous vivons en attendant ce qui est à venir, la vie éternelle avec Dieu, cette vie qui ne va jamais se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. C'est ça notre espérance. Soyons sûrs, si nous sommes chrétiens, que nous serons avec Dieu pour toujours. Et il se peut que nous assistions à ce moment charnière dans l'histoire pour les chrétiens, où le monde est de plus en plus ouvertement hostile envers les chrétiens. Mais comment est-ce qu'on peut vivre dans ce monde hostile en étant fidèle à Dieu? Mais Pierre nous a dit ce matin, sachez qui vous êtes, sachez qui vous êtes, notre identité choisie, précieuse aux yeux de Dieu, mais étranger, rejeté dans le monde. Et deuxièmement, sachez, soyez sûrs de ce qui vous attend, un avenir glorieux et certain avec Dieu. Prions ensemble. Béni sois-tu, en effet, notre Père, de nous avoir fait naître de nouveau pour cette espérance vivante, cet héritage glorieux d'une vie éternelle avec toi à tout jamais. Combien nous te louons pour cela? Nous te louons parce que cela ne dépend pas de nous. Tu ne nous as pas sauvés parce qu'on est des gens de bien, mais tu nous as purifiés par le sang de Jésus. Et nous voulons te louer pour qui nous sommes ce matin, si nous sommes chrétiens, un peuple choisi, précieux à tes yeux, mais que nous soyons prêts aussi à être étrangers dans ce monde, rejetés par les autres, en étant sûrs de ce qui nous attend, cet avenir glorieux avec toi. Que tu nous donnes de vivre fidèlement pour toi dans ce monde hostile, en évitant les tentations de l'isolement et du compromis. Nous t'en prions pour ta gloire. Amen.